La sagesse de Duc. La sagesse de Duc. Bonsoir Jean-Tugue.
Bonsoir Renaud.
Ça va?
Mais très bien.
Et ouais.
Bonne reprise, tout est parfait, il fait encore beau.
Oui, ça c'est bien ça. faudrait que ça s'arrête jamais cette affaire.
Nous verrons bien, mais faut pas se leurrer, ça va changer certainement de cap rapidement.
Oui, c'est cette saison, comme on dit. Puis grande marée le week-end. Là. Enfin. On s'y jette. Hein.
Allez. On s'y jette sur la cinquième année.
Ouais, cinquième saison, là. Et on va démarrer un petit peu quand même avec un sujet. Si on reprend un petit peu ce que tu avais dit, c'est que le sage se pose. Le sage se pose et il faut plutôt faire aux autres. Il réfléchit.
Je dis ça, moi ?
Oui, tu l'as dit à la première saison. Tu regarderas sur le site de notre radio. C'est l'intitulé de l'émission. Il se pose, il regarde, c'est un contemplatif, et il réfléchit. Et donc ça amène quand même une question, c'est que, du coup, la sagesse peut-elle être révolutionnaire ?
Alors, la sagesse peut-elle être révolutionnaire ? Donc c'est bien le thème, hein. C'est pas est-elle révolutionnaire, c'est peut-elle être révolutionnaire.
Non, peut-elle être, on est bien d'accord sur le peut-elle être.
Écoute, on va faire comme d'habitude, on va commencer par disséquer chacun des termes.
Oui, je pense que ce serait une bonne chose.
Et je vais reprendre tout de suite ce que tu disais à l'instant quand tu disais le sage contemple. Mais là, on ne parle pas du sage.
Non, on parle de la sagesse.
Nuance extrêmement importante, même carrément fondamentale. On pourrait y revenir à la conclusion.
Oui, parce que.
Tu retiens.
Oui, je retiens, mais je. Oui. Donc, effectivement, je parlais du sage et on parle de la sagesse.
Voilà. Donc la sagesse, tu connais mon affection pour l'Antiquité grecque.
Hein. Oui, je m'étais donné 2 minutes avant que ça arrive, mais tu vois, c'est bien.
Ça y est, c'est bon.
C'est bon, voilà. C'est bon. Donc les Grecs, ouais.
Ils avaient défini ça, parce que ça les a beaucoup motivés, hein, quand même, ce terme-là. Et depuis, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Ils avaient défini ça sous deux mots. Ils associaient deux mots. Le premier, c'était Sophia. Pas Antipolis, mais Sophia quand même.
Oui, Sophia quand même, oui. D'accord.
Et l'autre, la Phronesis.
Waouh, aïe, c'est bon.
Ça y est, largué, c'est bon.
C'est mort, 3 syllabes, terminus.
Phronesis.
Ouais, mais quid de la phronesis?
Mais j'ai trouvé ça intéressant. Bon, Sophia, tu connais par cœur, philosophie.
Oui, enfin oui, ça jusque là ça va.
Qui aime la sagesse, Sophia. Mm. Sauf que Sophia, c'est une partie seulement de la sagesse.
D'accord.
En tout cas, c'est comme ça qu'il la voyait.
Ah oui, moi j'étais resté sur Sophia sagesse point quoi en fait.
Parce que Sophia, c'est connaissance.
Oui.
Savoir.
Oui.
Donc on va y revenir, bien sûr.
Oui.
C'est une chose. La phronesis, c'est. Il y a eu plusieurs traductions avec les âges. La prudence.
Oui.
La mesure. La sagacité.
La sagacité.
La sagacité.
Tiens donc.
Oui, la sagacité.
C'est marrant, parce que je ne mettrais pas ça avec les deux autres.
Ah. Oui, effectivement, il est légèrement différent.
Oui, c'est prudence, mesure, je vois bien, quoi. Doucement, mais sûrement. Et sagacité, oui, c'est... Oui, très bien.
Donc, suivant les philosophes qui ont traité ça par la suite...
D'accord.
Il y a eu plusieurs traductions, mais bon... il y en a eu bien d'autres, évidemment.
Donc là, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que nos amis les Grecs qui avaient le temps de penser, ils associaient la sagesse à la notion de savoir, de connaissance, mais avec une petite pointe quand même de mesure, de sagacité.
Alors oui, donc de toute façon, on part forcément du Sophia, de la Sophia.
Oui.
C'est quand même la base. Hein, La sagesse n'existe pas sans connaissance.
Oui, ça oui, ça oui.
Il s'agit de savoir de quelle connaissance il s'agit, remarque. C'est donc en même temps la connaissance de soi-même et de son environnement.
D'accord, oui, ça c'est général en fait, c'est global.
Okay. Mais il y a bien le soi-même en même temps.
Oui,
c'est un concept qui suppose que l'on évolue avec son environnement.
Oui, d'accord, allez, je l'ai. Oui, non, mais c'est bon, oui. C'est assez, on n'est pas une entité à côté, on est dedans.
Voilà.
C'est ça, on est dedans et...
L'accompagner, quoi. C'est quasiment tibétain comme concept. C'est-à-dire que tu es sage toi-même en même temps que tu maîtrises ce qui t'entoure.
Oui, mais ça, t'as quand même une certaine maîtrise de l'ensemble. Oui, tu maîtrises les connaissances, c'est ça. Tu fais partie du... En fait, c'est un tout.
C'est un tout.
Et tu fais partie du tout, le tout avance avec toi et tu avances avec le tout. Mmh. Et t'en as conscience.
Et t'en as conscience.
Donc c'est ça un peu le côté donc Sophia.
C'est le côté Sophia. Alors bon, Sophia, j'inclus, mais ça c'est autre chose. La science aussi. Hein, parce que la connaissance, c'est la science.
Oui, mais bon, après, si on met les choses à leur place au niveau grec, les connaissances. La science, étant ce qu'elle était à ce moment-là, forcément, c'était un tout. On parlait d'érudits, on ne parlait pas de scientifiques, de littéraires, etc. C'était des érudits.
Oui.
Enfin, des philosophes en l'occurrence, mais...
Des sachants.
C'est ça, des sachants. Des sachants. D'accord. Et donc, ils incluaient cette affaire de... J'aime bien le côté mesure et sagacité. Moi, je les aurais presque mis en opposition, en fait, et c'est assez marrant que ce soit traduit... Alors, pas en opposition, mais pour moi, ouais, c'est vraiment des termes qu'on parle...
En complément peut-être, mais en opposition, ça me paraît exagéré.
Oui, c'est exagéré. non, effectivement, en complément, ouais. Ouais, parce que la mesure, ça quand même... Oui, c'est ça, il y a un côté posé. La sagacité, c'est quand même plus un côté intellectuel, un côté réflexion. Un côté malin.
Oui, justement. Bon, autant la Sophia... ne s'applique, c'est un concept de contemplation, puis tu as utilisé le mot au départ.
Oui.
C'est un peu ça quand même.
Oui.
Pour l'instant, on est dans le domaine de la pensée.
Ah oui, clairement.
C'est tout.
Oui.
La frénésie, c'est autre chose.
Ouais.
Là, on entre effectivement dans la mesure, la prudence. C'est-à-dire que, partant de cette Sophia, en fait, la frénésie, c'est le lien entre la Sophia et la vie.
D'accord, ok, d'accord. Donc la frénésie, ce serait le lien entre une démarche, en gros, purement intellectuelle, et le pratico-pratique, ce qui se fait,
voilà.
Le concret. Et ce serait le lien entre tout ça.
Oui.
D'accord, donc là, je comprends mieux le côté sagacité, prudence, mesure, effectivement. On s'emballe pas, oui. Non, mais c'est ça, il y a un juste retour des choses. Il faut en tenir
compte. Voilà, oui, c'est bon. Parce que pour la sagesse en soi, on peut la diffuser. Si elle n'est que Sophia, tu penses, on barre.
Oui, enfin après, tu as ton environnement.
Et c'est tout, bah oui, mais tu as ton environnement, Socrate.
Oui.
Son
oui.
Environnement, il s'en foutait un peu, quoi.
Ah, complètement, ouais. Oui.
Donc, la sagesse contemplative. Ça peut être un ermite, ça peut être... Bon.
Oui, c'est ça, un ermite, il a un environnement très restreint et c'est réglé, quoi.
Donc elle devient la sagesse, on va dire active, c'est un peu exagéré comme terme, à partir du moment où, effectivement, elle est le point de départ d'une réflexion vers quelque chose.
Oui. Oui, effectivement, actif,
c'est, là
fou, mais oui.
C'est là que donc, effectivement, on peut parler de prudence et de mesure lorsque on applique une pensée que l'on veut globale, etc., sur le monde qui nous entoure.
Ok, donc effectivement, c'est vraiment le lien entre la réflexion pure et dure et ce qu'on va pouvoir voir de concret, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, je suis dans mon coin, je réfléchis beaucoup, je vais mettre en place un concept quel qu'il soit, et derrière, ce concept à l'état brut, en fait, n'est viable que s'il est nuancé avec sagacité, avec le monde qui va m'entourer, ou tout au moins le concret, ce qui se fait vraiment autour de moi, vis-à-vis de ce concept-là. Voilà. Ok, donc ça, c'est la sagesse suivant les Grecs.
Ça, c'est la sagesse.
Oui, donc du coup, oui, c'est la sagesse. C'est-à-dire que ça englobe quand même beaucoup de choses.
Ben oui.
Ça va plus loin que un barbu qui réfléchit.
Ben voilà, le barbu qui réfléchit et le sage qui s'applique à la connaissance. Quand il est devant Renaud et son micro, il est en train de passer dans la deuxième partie de la sagesse.
C'est ça.
Il exprime une réflexion.
Ah, mais ça change tout, en fait. Non, mais ça change tout. La définition change tout, évidemment. Enfin, vis-à-vis de la question du jour, ça change beaucoup de choses.
Ben, j'espère bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Oui,
c'est pour faire avancer un peu le schmilblick.
Oui, effectivement, oui. Donc la sagesse, ok, donc là c'est à peu près clair. Et alors, donc depuis les Grecs, il n'y a pas eu vraiment d'évolution de définition de la sagesse au final.
Ben, de toute façon, notre civilisation est née de celle des Grecs. Eux-mêmes issus de la civilisation égyptienne, assyrienne, sumérienne, mais tout ça c'était à peu près dans le même.
Ouais, c'est le même quartier, quoi.
Oui, c'est le même quartier en gros. Les Romains n'en ont pas trop rajouté parce que c'était pas trop leur truc.
Bon, c'est des absorbeurs, les Romains, c'est pas des créateurs.
Oui, non.
Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est juste un constat. C'est des gens qui absorbent les choses et qui font avancer un tout petit peu, mais c'est
qui font avancer
trop.
Un petit peu. Après, il y a eu les Arabes, mais les Arabes c'est pareil. Ils n'ont pas fait grand chose dans ce domaine-là, ils sont plus appliqués à tout ce qui était technique et scientifique.
Oui, ce qui n'est pas plus mal.
Et comme depuis, on est en pleine décadence.
Oui, c'est même depuis, on est plutôt sur la descente que sur la montée. Oui.
Ah, bah oui. Ça, c'est clair. Donc voilà, quoi. Oui, effectivement, on peut dire que la sagesse, la définition de la sagesse est essentiellement issue de la civilisation grecque.
Eh ben, maintenant qu'on a bien défini la sagesse, on va la digérer pendant une petite pause musicale et on va passer aux autres mots après. Dire, on est toujours au bistrot, toujours aussi bien accueilli.
Oui.
Ça, c'est bien.
Comme pour ne pas porter le masque, il faut consommer, nous consommons en même temps.
Oui, mais c'est contraint et forcé.
Absolument.
Avec sagesse. Donc on a vu la sagesse, une définition très complète en fait de la sagesse qui nous vient directement des Grecs, qui avaient fait déjà une petite synthèse de ce qui s'était fait avant. Depuis, on a gardé cette définition parce qu'elle était très bien. Elle va au-delà de la pensée pure et dure, hein. Il y a quand même un côté pratique, un côté j'aime beaucoup prudence et sagacité, c'est bien ça. Et donc si on reprend le truc, la sagesse peut-elle être révolutionnaire? Enfin, je m'attaquerais bien à un révolutionnaire.
Révolution.
C'est pour moi, bon, ok, il y a l'évolution et la révolution. Évolution, c'est c'est un mouvement lent. Et révolution, c'est un mouvement brutal. J'ai tort ou j'ai raison?
Oui, effectivement, non, tu as parfaitement raison. L'évolution suppose qu'on ne remette pas en cause ce qui a précédé. La révolution, ça veut dire, a priori, qu'on casse tout et on recommence.
C'est ça.
Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs. Parce que ce terme de révolution, révolution française, hein, on a le meilleur exemple sous le nez, depuis deux siècles, effectivement, on change tout. Maintenant, une révolution, c'est aussi la Terre qui tourne autour du Soleil, qui revient au point de départ.
C'est ça.
C'est quand même curieux, ce même mot j'ai pas bien compris pourquoi, là. Si t'as une explication...
Non, mais je me suis toujours demandé si c'était une ironie du sort, parce qu'une évolution, une révolution, c'est une évolution qui se refait. Donc, enfin, quand on refait quelque chose, donc on a l'évolution. Une révolution, c'est comme si on refaisait l'évolution, donc on accélère le mouvement.
C'est une deuxième évolution. La révolution, c'est le re-évolution.
Le re-évolution, et donc ça implique forcément une cassure, d'où le côté un peu rapide. Mais c'est vrai qu'à côté de ça... quand on fait un cercle, c'est une révolution. Et effectivement, la Terre qui tourne sur elle-même, elle fait une révolution.
Ben oui.
Et je ne sais pas si c'est un hasard du vocabulaire ou si c'est qu'il y a un lien direct. Et je crains pour le lien direct quand même.
Ah bon ? Bon, je ne sais pas. Bon, effectivement, quand tu dis une orbite, d'accord, on tourne. Donc on a une réévolution parce qu'on bouge, une évolution quotidienne, toc toc toc, on bouge, on revient au point de départ, et on recommence donc une réévolution de l'élément. Alors que le terme de révolution tel qu'on va le maîtriser maintenant, il n'y a pas de retour.
Non, il y a une cassure.
C'est un retour à zéro, oui.
Oui, c'est ça. Oui, c'est une cassure.
Oui, c'est une cassure, c'est
clair. Je veux pas dire qu'on part de rien et qu'on casse tout, mais il y a quand même une cassure certaine.
Ben oui. Oui, oui, oui. Donc, alors, révolutionnaire, on vient de dire cassure, ça veut dire qu'on interrompt quelque chose et qu'on cherche à le remplacer par autre chose.
Oui, ah oui, c'est important ça.
Ben oui.
On cherche à le remplacer.
Ce n'est donc pas une révolte.
C'est, voilà, ça, c'est pas une révolte, c'est pas l'anarchie. On a une vision derrière, une volonté de le remplacer.
Vouloir que. C'est comme une manifestation, quoi, en gros, un peu. C'est donc vouloir changer une partie, refuser une partie du schéma dans lequel on vit.
Oui, enfin la révolte.
De la société.
Oui, enfin la révolte.
On ne remet pas en cause les fondements même.
Non. D'ailleurs, enfin, la révolte, c'est même un refus de quelque chose.
Alors qu'une révolution, c'est bien plus profond que ça.
Oui, c'est plus qu'un refus, effectivement. La révolution, c'est vraiment, oui, c'est la cassure. Je cherche un autre mot plus souvent, mais je ne trouve pas autre chose. C'est vraiment une cassure et une remise potentiellement à plat de tout.
Oui.
Et un remplacement des choses.
Alors voilà, le tout, c'est une révolution, ça se réussit ou pas.
Oui, mais pour savoir si une révolution est réussie ou pas, il n'y a que le temps et le recul qui va nous donner ça.
Effectivement, que le temps et le recul, ça bien sûr.
Et je pense globalement que des révolutions réussies, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup. En revanche, des révolutions réussies partiellement ou à 80%, là il y en a eu beaucoup. Enfin, il y en a eu.
C'est vrai que quand même... Il n'y a pas eu beaucoup de révolutions réelles.
Et complètes. Si on prend celle qu'on connaît par cœur, la nôtre, la Révolution française, on a tout cassé. C'était un peu chaotique, normal. Mais si on regarde ça avec 200 ans de recul, il y a effectivement énormément de choses qui ont évolué. Enfin, d'un point de vue, on parlait tout à l'heure de science, par exemple. Le passé au système métrique, c'est la révolution.
Oui.
Et effectivement, on a une cassure, on casse tout, on met tout à plat, et on part sur un autre système. Aujourd'hui, on l'a toujours, et heureusement. Donc ça, c'est le côté réussite. Après, sur la façon dont... Je suis pas sûr qu'on ait tout cassé sur le côté, même s'il n'y a plus de noblesse, mais on garde un petit peu cette même structure.
Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, on ne peut pas dire ça quand même. Même pas du tout d'ailleurs.
Ah, voilà, on va y arriver.
Non, non, la Révolution française, bon, effectivement, c'est le système métrique, c'est aussi le kilo. Hein. Le kilo, c'est purement révolutionnaire. Basé sur une seule et unique volonté.
Oui, c'est ça.
C'était pas pour changer, pour le plaisir. C'était pour proposer un schéma universel.
C'est ça.
C'était ça la volonté initiale. Quelque chose de universel, compréhensible par tout le monde. Mais le tout le monde n'étant pas les Français.
Non, c'était beaucoup plus vaste.
Oui, alors qu'on était en guerre contre nos voisins.
Oui.
Nos voisins, en même temps, ont adopté le système métrique et le kilo.
Ah oui, c'est ça, oui.
Donc, il y avait quand même là une force claire qui allait au-delà des contingences liées à la Révolution.
Oui, c'est ça. Je crois que les derniers à l'avoir adopté, c'est les Anglais en 1970.
Oui, ça c'est possible, mais encore...
Si,
j'en suis sûr. Les 11, ça n'existe plus, ça ?
Bah, dans le langage courant. Mais non, mais comme j'imagine bien qu'en 1820-1830, on devait encore parler dans le langage courant, en lieu et en livre. Regarde, chez le boucher ou je ne sais quoi, tu as encore quelques fois des gens qui te demandent, surtout au fin fond de la Mayenne, une livre de beurre, une livre de viande.
Bah oui.
Donc c'est resté, il y a des restes. Et nous, 200 ans après, quoi. Donc les Anglais qui sont passés officiellement au système métrique en 1970, il y a 50 ans de recul, quoi. C'est normal qu'ils parlent encore un peu. Mais ils sont passés quand même en système métrique.
Oui, non, j'ai un ancêtre qui a écrit des bouquins au moment de la Révolution, juste après, et qui effectivement a du mal de temps en temps à passer de l'un à l'autre.
Ben oui, c'est pas simple. Hein.
Et quand il reprend des notes qui date d'avant le système métrique, c'est toujours l'ancien système.
Mmh. Ah, c'est ça, oui.
Bon, bref.
Bref, c'est ça.
Ce n'est pas que le système métrique et le kilo. C'est aussi quand même un autre ordre. T'as beau dire que ce n'est plus la noblesse. D'abord, c'était aussi le clergé.
Je l'avais oublié celui-là, exact. C'était surtout le clergé.
On est passé au tiers état.
Oui.
Celui qui valait pas grand-chose.
Oui.
Et dans le tiers état, évidemment, celui qui en a profité le mieux et le plus, c'est la bourgeoisie.
Oui.
Donc on passe d'un schéma où ce qui prédominait, c'était la religion et les terres, la propriété. Mmh. À une économie industrielle et urbaine.
Effectivement, oui.
Ah bah.
Hey. Oui, non, c'est. Oui, c'est
hein, quand même.
Oui, c'est une grosse cassure, oui. Oui, c'est effectivement.
Ils n'entendaient que ça, hein, les loustiques.
Oui, tu m'étonnes. Ah ouais, voilà.
Puis bon, à côté de ça, il n'y a pas non plus que ça. C'est aussi. C'était donc. Avant, c'était la religion. On casse le schéma de la religion pour y introduire définitivement la raison.
Oui. Oui, la raison commence à primer, effectivement.
C'est le siècle des Lumières qui est juste avant.
Oui, c'est ça. On commence à avoir des gens qui sortent un petit peu des schémas religieux.
Bah oui, c'est même carrément essentiel. Bon, après, ça va mettre du temps.
Oui, mais c'est comme tout ça.
À évoluer, donc. Mais en 1870, ça commencera, et en 1905, ça sera résolu.
Oui, clairement acté, ouais.
Mais voilà, quoi, c'est quand même tout ça qu'on remet en cause. J'ai lu des bouquins de droit là-dessus. Mais ben oui, ils cassent tout le droit féodal.
Ah bah oui.
Mais ils n'ont rien à mettre à la place.
Ah bah oui, c'est vrai ça, j'avais pas pensé au droit féodal. Oui, parce qu'on était encore en droit féodal.
Parce qu'ils cassent tout, y compris les taxes.
Oui. Ah, il a pas
mais il
n'y
a plus d'argent.
Bah oui, il n'y a plus de taxes, plus d'argent.
Donc ils se dépêchent de recréer des taxes, en les faisant, bon, un peu moins, je sais pas, un peu plus. Là. Mais j'ai des bouquins qui, recréent les taxes.
Ouais.
C'est assez intéressant.
Oui, ah oui, ça je veux bien le croire, ouais. Oui, donc effectivement, on comprend mieux quand Napoléon commence à mettre en place... Oui, forcément, il arrive au bon moment, avec une bonne vision, pour pouvoir mettre en place toute la structure du droit français.
Bah là, il était balèze.
Oui, non, il était vraiment...
Il a profité de l'opportunité.
Oui.
Il n'aurait pas eu ça, Napoléon, on n'aurait jamais entendu parler.
Bah oui.
Mais il était là, au bon moment.
Oui, mais enfin bon, c'est aussi dans les périodes compliquées que ressortent les grands hommes.
Voilà.
Donc, voilà. Donc, révolutionnaire. Donc, révolution, c'est une grosse cassure... Oui, c'est ça, c'est une grosse, enfin une cassure, mais voilà. Une cassure, oui, c'est pas.
Alors, ce n'est pas qu'une cassure, hein, c'est pour mettre autre chose à la place.
Oui, c'est ça, c'est une
c'est
cassure.
C'est reconstruire autre chose.
J'essayais de placer dedans la notion de temps, en fait. C'est une cassure pour mettre quelque chose à la place et sur une courte durée.
Et sur une courte durée. Alors, pour autant, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que l'on a. Du même coup, instaurer une nouvelle civilisation.
Bah non. Ah.
Ça se discute, mais c'est ça se discute.
Oui, ça se discute. ça se discute parce que et je suis pas sûr qu'on ait assez de recul pour. Oui. C'est potentiellement une révolution, c'est une cassure rapide pour mettre autre chose à la place au sein d'une civilisation. Mais c'est pas pour autant qu'on va en dégager une autre civilisation.
Non, parce qu'on avait dit qu'une civilisation supposait une vision à une époque. Hein,
c'est ça, exactement.
Et qu'il lui fallait du temps.
Et
vision et durée.
Et durée. Et donc.
Et géographie, d'ailleurs, si je me souviens
oui,
bien.
C'est ça.
Il a mis trois termes.
Oui, la géographie. Ce qui veut dire qu'en fait, une civilisation va naître par une évolution. Même si au départ, il y a une révolution, avant qu'une civilisation change ou naisse, c'est forcément un phénomène d'évolution.
Alors, effectivement, il est sans doute trop tôt pour se prononcer sur le caractère civilisation de ce que nous avons vécu il y a 200 ans.
Je pense qu'on est vraiment, oui.
Et maintenant, je pense qu'au-dessus, on est mal barré. Mais
Oui, aussi, mais si on prend des civilisations anciennes, si on prend la civilisation égyptienne, pour changer un petit peu, la civilisation égyptienne qui a duré très longtemps a eu sa part de révolution.
Oui, là, si tu pouvais expliciter, ça me plairait bien, mais.
Oui. Comment dire ? Faut que je trouve un exemple. Qui m'arrange. Non, mais la civilisation égyptienne, par moment, notamment, c'était lié. En fait, la part de la révolution venait quand ils ont annexé des pays voisins. Et il y a eu notamment une révolution, dans le sens où il y a eu une cassure violente et un changement. Ils n'avaient pas d'argent, ils ne travaillaient qu'au troc. Et du jour au lendemain, ils ont mis en place l'argent.
Oui, ça sont les Sumériens.
Oui, c'est quand ils ont avec les Sumériens.
Oui, c'est les Sumériens.
Oui, mais ça a été une révolution pour l'Égypte, pour la civilisation égyptienne.
Ah, du coup, j'en sais pas assez. Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils ont créé simultanément l'argent, et l'écriture. Parce que ça suffisait pas de savoir dire.
Oui.
Il fallait qu'on sache de quoi on parlait. Donc, alors ça a nécessairement modifié la donne.
Oui, ça a modifié la donne. Mais ça reste la civilisation égyptienne.
Mais est-ce que ça a pour autant généré une révolution ? Je ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que l'imprimerie en est une. Ou l'électricité en est une.
Pas forcément d'accord avec ça.
Je me doutais un peu.
Parce que l'imprimerie, C'est juste une mécanisation de ce qui se faisait manuellement. Et donc, ça ouvre un champ.
Oui.
Ça donne rapidement un accès qui, de toute façon, aurait eu lieu, mais sur la durée. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde copie à la main des livres, les livres y restent, on finit toujours par accumuler et on finit par, dans un temps peut-être beaucoup plus long, à avoir un accès à tout ça. L'électricité, ça n'a ni plus ni moins que, dans un premier temps tout au moins, remplacer ou simplifier ce qui existait déjà. Dans un premier temps. Après, effectivement, ça a amené d'autres choses. Mais si on regarde bien, aujourd'hui, l'électricité, ça n'a rien inventé. Ça a juste amélioré des choses qui existaient déjà, c'est ça. Si on prend un...
Ça n'a rien inventé parce que c'est une invention.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas fondamentalement changé les principes. C'est une découverte. Ça n'a pas fondamentalement changé la façon de faire. Et là, on peut prendre du basique. Hein. La lumière qu'on a ici, avant l'électricité, c'était du gaz. Mais on avait de la lumière.
Et avant le gaz, c'était lampe à huile.
C'est ça. On avait ça. On a amené du confort, c'est tout. L'électricité...
Mais l'informatique, ça... n'existera pas sans électricité.
Alors, évidemment, ça, c'est un peu particulier. Parce qu'il y avait des notions d'informatique bien avant que l'électricité existe. C'était mécanique. Ou pneumatique.
Oui, oui, oui.
Enfin, tu vois, il y a eu quand même des tentatives d'automatisation, en fait. Parce que l'informatique, c'est juste une automatisation des tâches. À grande échelle et rapide. Mais ça reste ça. Et il y a toujours eu un petit peu ça. Et l'électricité, c'est... Ouais, ok, le moteur électrique. Avant, c'était quoi? C'était le musculaire, hein, un cheval, ce que tu veux. Mais tu vois, ça n'a pas... Il n'y a pas eu de... L'arrivée de l'électricité... Ça a amené du confort, ça a amené d'arriver, de faire les choses plus rapidement, du gain de temps, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment changé la donne. Il se trouve que j'ai un bouquin, figure-toi, qui est sur la
fée... Je doute un peu quelque part.
Qui est sur la fée électricité. Ce bouquin date de 1946. C'est édité par l'ancêtre d'EDF, qui prônait les bienfaits de la fée électricité pour pouvoir électrifier le pays en entier, parce que tout le monde n'en voulait pas de l'électricité. Et quand on lit ce bouquin, on voit quoi dedans ? On voit les plaques électriques pour chauffer, on voit le lave-vaisselle, on voit le lave-linge. Le seul truc qui manque, c'est le micro-ondes, mais parce qu'il n'existait pas. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien, fondamentalement rien amené. Les machines à laver, il y en avait qui existaient, certes, c'était manuel, il fallait tourner une manuelle, mais ça existait déjà. Le lave-vaisselle, les premières versions du lave-vaisselle, c'est une invention anglaise, c'est pareil, c'était quelqu'un qui tournait une manivelle avec de l'eau chaude, mais ça existait déjà. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'électricité... Ça a simplifié les choses, c'est tout.
Un peu réducteur, mais bon.
Un peu réducteur, oui. Mais il n'empêche que c'est pas. Ça a modifié toute la vie de tout le monde, mais pas autant que la découverte du feu.
Ah bah oui,
là, il y a une claire plus-value. Enfin, il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est une révolution.
Encore manger froid, puis c'est tout.
Ah, mais faut voir la pâte. Tu manges froid, tu peux pas aller au fond d'une caverne, c'est la galère. Le feu, tu manges chaud, tu développes des protéines, tu peux commencer à plus avoir peur la nuit, tu peux commencer à aller au fond d'une caverne, tu peux t'abriter, tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'ours avant d'y aller. Enfin, les animaux s'éloignent la nuit. Enfin, non, le feu, ça c'est une révolution.
Ça c'est une révolution. Bon, on n'était pas là, c'est dommage.
Et ouais, clairement on n'était pas là. Donc oui, ce qu'on veut dire, c'est est-ce que la révolution a créé une civilisation ? Ben, on n'en sait rien.
Pour l'instant, pas vraiment, mais ton chrono va prendre...
Oui, donc là, il va falloir
qu'on se fasse... T'es enflammé,
là ? Là, ouais, et donc là, on se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Soleil couchant
la suite.
Voilà. Donc on a vu la sagesse, on a vu révolution.
Comment ça fonctionne quand on met les deux?
Ouais, juste un détail. Alors, on a vu parce qu'on a beaucoup parlé de révolution, donc en fait une révolution, on a vu, c'est une cassure brutale, blablabla. Mais être révolutionnaire, c'est quoi? C'est faire ou c'est pousser à faire?
Alors, être révolutionnaire, c'est faire ou pas, ou pousser à faire. T'anticipes sur la suite, là.
J'anticipe sur la suite, je la garde pour plus tard, alors. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met sagesse et révolution dans la même phrase?
Alors, la première idée que l'on a, c'est que c'est antinomique.
Complètement.
Un sage, comme tu l'as dit au départ, contemple. La sagesse est un concept,
oui.
Un mode de pensée, même s'il conduit à des réflexions qui peuvent apporter des changements. Mais en attendant, c'est bien quelque chose qui est hors du monde.
Oui, complètement.
Alors que la révolution est profondément ancrée dans le monde.
Ah oui. Puisque sans le monde, pas de révolution.
Donc, a priori, ça va pas ensemble.
A priori.
Sauf que... peut-il y avoir révolution sans, au préalable, les conditions d'un nouveau projet?
Ah, je vois où tu veux en venir. Ce que tu es en train de me dire... pour paraphraser ce que tu viens de dire. Peut-il y avoir révolution si on n'a pas le plan qui suit? Et le plan qui suit doit être pensé au préalable.
Exactement. Or, qui va le penser?
Bah, le sage. J'ai la bonne réponse, je suis sûr.
Oui, celui qui n'est pas dedans.
Oui, alors là, par contre, je ne vais peut-être pas forcément être d'accord avec toi. On va revenir sur ta question. Peut-il y avoir révolution si on n'a pas au préalable... définit la suite? J'aurais tendance à dire qu'on peut avoir une révolution sans pour autant avoir au préalable défini la suite, mais que la suite peut se définir par la révolution.
Je te dirais volontiers non.
Ah.
Parce que une révolution réussie, implique quand même que l'on ait la vision de quelque chose. C'est pas une nouvelle civilisation qu'on met en place, quoique une vision pensée. Hein.
Oui, évidemment, mais une révolution, oui, d'accord. Oui, d'accord, évidemment, il y a une notion de réussite, bon, effectivement.
Tout casser, on peut toujours le faire.
Oui, oui.
Ça n'est pas une révolution pour autant.
Révolte.
On a cassé.
C'est une révolte.
Voilà, on peut tout détruire. Mais pour reconstruire, ça suppose un nouveau schéma.
Et donc oui, fatalement.
Le schéma est forcément anticipé, quoi.
Alors est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas la définition d'un nouveau schéma qui pousserait à faire une révolution?
Je pense que oui.
C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Puisqu'il n'y a aucun intérêt à se dire là, ça me plaît pas, je casse tout, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Le raisonnement, il est forcément dans l'inverse. À savoir, ça c'est mieux que ça, ça c'est pas bien, on casse. J'ai mieux.
Exactement. Non mais c'est ça.
C'est ça, hein.
La révolution. On parle toujours de la même, de toute façon.
Oui, mais même on peut la généraliser, puisque c'est une caricature de révolution, celle-là. De toute façon...
La révolution est l'aboutissement de quelque chose. Ce n'est pas le début. C'est la fin. C'est d'abord la fin.
C'est ça. Et la fin justifie
la fin. Et la fin, pas la fin d'une... C'est la fin d'une société. C'est d'accord.
Oui, oui, mais c'est...
Dominé par la noblesse et le clergé, le roi, etc. Et non, c'est aussi la fin d'un cheminement.
Oui, c'est la fin d'une réflexion,
oui.
Pour pouvoir passer à autre chose.
La fameuse phronésis.
C'est ça, c'est ça. Là, elle se place bien, là. Là, elle se place très très bien, d'ailleurs. C'est ça.
Tout à fait, non, mais tu n'auras pas eu avant. On en a déjà parlé 20 fois.
Au moins.
Au moins, parce qu'on en a déjà fait 40 émissions, donc on a dû en parler au moins 35 fois.
C'est ça.
L'essor des villes au Moyen-Âge créait les conditions d'une révolution en 1789. Ça ne disait pas ça sera une révolution en 1789, mais ça allait créer petit à petit les conditions qui allaient amener ce changement.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a des conditions, il y a la vision d'autre chose et un élément déclencheur.
Absolument. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, et le dernier en date, c'est le siècle des Lumières. Mmh. Voltaire ou Rousseau ont jeté les bases de ce qui allait advenir en termes intellectuels, en termes de pensée.
Ah, oui, c'était pas non plus
la sagesse.
C'est clair. De sagesse, exact, en termes de sagesse. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'une fois qu'on a des éléments donc concrets, des éléments extérieurs qui se mettent en place, qui génèrent une réflexion, le sage ou les sages, peu importe, vont être à même d'amener une réflexion.
Je suis pas d'accord quand tu dis le sage ou les sages.
Mais c'est volontaire. Donc le sage ou les sages vont amener une réflexion.
Oui, ça d'accord.
Ça d'accord. Qui va aboutir à un changement nécessaire. Obligatoire, nécessaire, une volonté de changement.
Là, c'est pareil, je ne suis pas d'accord.
Et un élément déclencheur va faire que une révolution va se mettre en place et le changement va pouvoir se positionner. Alors maintenant, on va reprendre partout où tu n'es pas d'accord. Donc tu disais le ou les sages.
Bon, le ou les sages, oui. On parlait de Voltaire et de Rousseau. On parlait de Diderot aussi. Mmh. En aucun cas, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont pensé d'abord, ça c'est la Sophia, la connaissance. Donc ce qu'ils ont écrit, ça on entre dans la phase phronesis.
Oui, ok.
Tout ça, ça n'a jamais été fait pour être la révolution un jour.
Ah, pas du tout, oui.
Aurélien, tu me dis, tu as tenu tout à l'heure, ça va aboutir. Non! C'était pas volontaire du tout, c'est...
Non, c'est oui, oui, d'accord.
Oui, j'élabore une réflexion qui est issue de mon histoire, de ma culture, au moment où ils vivent.
Oui.
C'est la Renaissance est passée par là, donc la religion perd de son efficacité, de son imprégnation dans la société, la bourgeoisie est de plus en plus puissante, c'est l'Europe, elle est à peu près en paix sous Louis XV. Ça a été déterminant, hein.
Oui.
Autant Louis XIV a fait la guerre tout le temps.
Ça occupe,
effectivement, il a mis, mais ça occupe. Il a besoin de beaucoup d'argent, d'accord, il a fait le château de Versailles, il a fait des grandes choses, mais Louis XV, lui, a profité de tout ça dans un climat de paix. Et il a vécu longtemps aussi, celui-là.
Oui.
Donc ça a permis le siècle des Lumières.
Oui.
C'est ça, tout ça,
oui.
qui de toute façon est l'aboutissement de là et pose les bases de nouvelles raisons.
Exact.
Ensuite, d'autres personnes se sont chargées, puisqu'on leur disait que la noblesse était à bout de souffle, hein, c'est la physiocratie.
Oui, d'accord, oui, on a parlé de ça.
C'est, oui, c'est la dernière. Challenge de la noblesse pour réussir à conserver ses prérogatives. Face à ça, de toute façon, la bourgeoisie monte, l'industrie monte, la raison développe de nouveaux concepts. La révolution était au bout.
Oui.
Ça aurait pu être autre chose. Ça a été la révolution.
Oui, ça aurait pu être autre chose, mais ça a été la révolution, effectivement.
Alors, ce qui a déclenché, je ne sais plus, mais c'est même pas...
Non, c'est un élément à deux balles, c'est rien du tout. Oui, c'est juste un élément déclencheur, c'est une opportunité.
Au moins, trois sommes ou quatre, mais...
Non, un problème de nourriture, peut-être.
Non, même pas, c'est même un pas, truc externe, c'est même pas lié... Si, ça y est, je m'en souviens. Le pauvre Louis XVI, de toute façon, a accumulé les conneries. Pourtant, il n'était pas con.
Non, il était juste au mauvais endroit.
Il n'était pas con du tout. Mais lui aussi avait une vision un peu décalée. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, il a fallu qu'il fasse la guerre. Avec ses voisins. Contre ses voisins, du moins. Et ben, il a levé des taxes.
Ah, ça, c'est pas une
bonne idée. Voilà. Eh ben, ce sont les gilets jaunes avant l'heure.
C'est ça, c'est exactement ça. Et ça a été l'élément déclencheur dans...
Et là, du coup, ça n'a pas fonctionné.
N'a pas fonctionné.
Alors, le peuple s'est révolté, la bourgeoisie, évidemment, s'en est inspirée, et on est parti. Et
comme il y avait les bases d'une nouvelle ère possible, paf, c'est
passé. Ça ne donnait pas tout. Hein.
Non, mais c'est une base.
Parce qu'effectivement, on peut dire que la sagesse, donc les penseurs... qui ont élaboré certaines réflexions basées sur la raison et non plus sur l'Église, ont jeté les bases d'eux, encore une fois, la bourgeoisie s'en est emparée, mais il manquait un élément.
Oui. Alors là, il me le manque aussi.
Ben oui, t'as jamais vu Voltaire ou Rousseau, ou j'étais mort, ou Diderot, aller au charbon pendant la Révolution.
Ah ben non, évidemment non.
D'autres qui sont allés.
Ah oui, toujours.
Mais pas que pour aller se battre, pour construire autre chose.
Oui, non, bien sûr, oui, pour construire, évidemment. Il y a eu d'autres choses, d'autres personnes.
Donc là, pendant l'interruption qu'on a eue, un peu longue, mais c'était hors micro, donc, sur l'imprimerie et tout le reste, c'est la base de la Révolution.
Je ne suis plus du tout. Je suis perdu.
Parce qu'il faut des gens qui sachent penser et agir à la fois.
Ah oui, allez, d'accord, ok, je t'ai récupéré là, effectivement.
Penser, donc, des gens qui lisent.
Et oui. Des gens éduqués, ils lisent.
Toute la bourgeoisie fait du droit à l'époque. C'est la base.
Bah oui, c'est la base.
C'est la base, tu fais ton droit.
C'est ça, c'est pas pour
rien. Après, si tu es 1750,
ouais.
Tu t'es énormément intéressé à l'agriculture, ouais. Puisque c'était la physiocratie.
Ouais,
la richesse, ouais. C'était l'agriculture, parce que l'agriculture, c'était les nobles qui en avaient la propriété. Mm. C'est pas eux qui bossaient, évidemment. Mais...
Bah non.
Et donc, ils arrivent quand même avec ça et les savants.
Mais c'est ça, moi j'étais sur les savants.
Il y a eu énormément de savants à l'époque.
Mm.
Il y a Lavoisier, bien sûr.
Oui, et puis c'est une période où les savants...
Il y en a bien d'autres.
Oui, parce que c'est quand même une période où le mec qui pouvait réfléchir et être savant, c'était quand même un bourgeois, ou un noble qui avait des revenus qui lui permettaient, pour son loisir, de faire des sciences. Et là, on arrive sur une période où on commence à avoir des scientifiques qui ne sont pas issus de la bourgeoisie et qui ne sont pas issus non plus de la noblesse.
Ils ne sont pas issus de la bourgeoisie, ils n'ont pas une heure des tonnes.
Enfin, c'est pas issu de la grande bourgeoisie.
Pardon.
C'est pas issu de la grande bourgeoisie.
Mais il y en a énormément. Et la Révolution a su les intégrer.
Et bien sur ces bonnes paroles, on va s'écouter un peu de musique.
Darling, parcourons nos mille collines et vallons, suce le long des toboggans, les gouttes qui perlent depuis tes tempes, trempent les grains, les secrets de ton teint. Ce main couronne, nos cascades de gorge là, terre choqueta, pas de sens pour l'amour, on tourbillonne de bord, le cuivre carillonne, tu scores à ton tour, je suis papa. Chaque roue la rose et fond. ses joies oblongues, tes orteils flattent mon crâne ou flattent ma langue. Un autre élan de bassin, tu claques le gant.
Exactement, et on va pouvoir répondre. Je pense qu'on a quand même tous les éléments là. Donc, ce qu'on disait, donc la révolution c'est bon, la sagesse c'est bon. Ce qu'on disait, c'est que pour qu'une révolution se mette en place, il y a quand même un tas d'éléments. Il n'y a pas que le sage, hein. Il n'y a pas que ça, il y a un tas d'éléments. Que ce soit aussi bien des éléments historiques, de société, mais aussi des gens, et une capacité des gens à pouvoir lire, écrire, enfin au moins lire. Pour être à avoir un minimum de connaissances, pour pouvoir participer activement à la suite de la révolution, et qu'une révolution peut pas vraiment exister s'il n'y a pas une suite qui a été pensée. Alors pas forcément pensée, oui. Mais qui a au moins une base sur la suite, sur par quoi on remplace.
Oui, du coup, j'en rajouterai un bout. Autant, effectivement, le siècle des Lumières a été déterminant pour que l'on puisse penser une révolution. Mmh. Autant, oui, tu vas mouiller ton truc. Ça va un peu plus loin que ça. Pour construire une révolution, ou du moins une post-révolution,
oui.
Il faut le retour des sages, de la sagesse.
C'est le côté mesuré.
Oui, en gros, bon, ils ont eu quelques soucis quand même.
Oui. De hauteur.
Bonjour. Bonjour. Oui, ils ont eu quelques soucis, mais en attendant, tu as une succession de schémas politiques qui se mettent en place. Mmh. La Convention, etc. Tu as la Première République, tu as le Consulat, etc. Tu as la Deuxième République, etc. Mmh. Mais à chaque fois. Il faut bien qu'il y ait un schéma de directeur de tout ça.
Bah oui.
Et ça n'arrive pas tout seul.
Non. Ben non.
Donc il y a des gens qui, en amont, y ont pensé.
Oui.
Et au fur et à mesure que les événements se mettaient en place. Je ne sais pas si tu vois la rapidité de réflexion des gars.
Ben oui, c'est ça, il y a quelques soirées.
Qui ont, bah oui, qui ont réfléchi, mes ancêtres ont été là-dedans.
Oui. Des gens qui pensent.
Ils proposaient effectivement. À la lecture de ce qu'ils vivaient au jour le jour, de nouveaux schémas de schémas politiques, de schémas de société, de construction de nouvelles sociétés. Et ça a dû chauffer dur dans les cerveaux, là.
Oui, ah oui, oui, oui. Et donc, pour revenir quand même sur la sagesse, peut-être
dire qu'ils ont gagné à chaque fois.
Oui, non, il y a peu, oui. Des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Ouais, hein, bon. Tout le monde ne pense pas la même chose au même moment. Donc, il y a forcément discussion.
Mais c'est ça, il y a forcément discussion.
Le plus fort gagne, mais on ne sait pas pourquoi il gagne. Bon.
Et le plus fort n'est pas forcément celui qui avait vu juste.
Exactement.
Donc, bon. J'aimerais qu'on vienne quand même sur une petite chose là. Le sage, ce n'est pas la sagesse.
Oui, 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 oui. Alors, le thème, c'était la sagesse peut-elle être révolutionnaire ? La réponse est donc, d'après ce qu'on vient de dire, oui. Il faut que l'on ait anticipé par la raison, par le discours, par la réflexion, par la pensée, donc la Sophia et l'Aphrodisus à la fois, mm-hmm. quelque chose pour que qui va enclencher une idée révolutionnaire.
Oui.
Le sage peut-il? Là, je dis non. C'est pas le sage qui va faire la révolution.
On est d'accord. Le sage ne fera pas la révolution.
Il ne peut pas la faire.
Le sage va faire la sagesse.
Il va s'occuper de son domaine qui est effectivement la Sophia et la Phronesis. L'action sera prise en charge par d'autres.
Et donc, la sagesse peut-elle être révolutionnaire? Oui, mais le sage, non. Ensuite, la sagesse peut-elle être révolutionnaire? Elle peut être révolutionnaire dans le sens où elle peut amener la révolution.
Oui.
Mais ce n'est pas elle qui va la faire.
Ce n'est pas elle qui va la faire.
On est bien d'accord. Donc, quand on dit que la sagesse peut-elle être révolutionnaire, la réponse oui concerne... non pas le fait de faire, mais le fait de préparer.
Eh ben, c'est exactement dans ta définition là. Peut-elle?
Mmh. Oui. Elle peut.
Elle peut. Tu vois, parce que je t'ai posé la question au départ. C'est peut-elle ou est-elle?
Oui, j'ai même
est-elle,
insisté.
Hein, c'était pas possible. Oui. Car la révolution s'intégrait à la sagesse. C'était pas possible. Peut-elle être révolutionnaire?
Oui. Eh ben c'est pas mal ça. Et alors maintenant, si on étend un petit peu à d'autres cas de révolution, non, parce que là on a parlé de la Révolution française notamment parce que c'était quand même le cas de prédilection. Maintenant, tout notre raisonnement, je serais assez curieux de le tester sur d'autres révolutions et sur des révolutions qu'on a, tout au moins le terme révolution justement est peut-être pas le bon. On a une dictature, il y a une révolution, on passe en démocratie. Est-ce qu'on est dans les mêmes conditions en fait, tout simplement?
Bah oui.
Non, mais je vous l'ai entendu.
oui, non, tu peux pas mettre à bas une dictature si tu n'as pas le corpus de raison qui te permet de construire quelque chose d'autre.
On est d'accord. Eh ben, la sagesse peut-elle être révolutionnaire? Oui, voire l'heure qui précède. Eh ben, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ça me plaît bien, là, comme ça.
Et ouais, puis, ouais. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour de tout l'ensemble de ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et donc, on se revoit dans un mois.
Ben, évidemment qu'on va se revoir dans un mois.
Eh ben, dans un mois, Jean-Tugue.
Ah, dans un mois, Renaud.